Vous allez écouter Parents Autrement, une émission réalisée en partenariat avec l'État, la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venessin et la CAF de Vaucluse.
RTVFM, l'esprit jeune.
Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'RTVFM dans cette émission Parents Autrement. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Florian.
Alors nous allons parler aujourd'hui au sommaire, une émission qui va concerner la rentrée scolaire. On va surtout aider les parents et les enfants à préparer leur rentrée, même si elle a eu lieu. Hein. Ça peut être des conseils pour réussir cette année scolaire. On aura notamment la parole de parents, de familles et d'enfants qui nous parleront un petit peu de cette rentrée, leur ressenti, puisqu'on est allé recueillir leurs paroles, n'est-ce pas Stéphanie?
Oui, à l'école primaire Amand Djébé, mais aussi au collège François Raspail, pour avoir un petit peu le ressenti des sixièmes, juste avant la rentrée finalement.
Voilà, donc ça, ce sera ce qu'on aura vraiment au début de l'émission. Par la suite, rendez-vous aussi avec le PRE. Là, on aura, il me semble, Laurence Lodi ainsi qu'Agnès Andrivon.
C'est ça, donc elles vont nous expliquer un petit peu ce qu'est le PRE, puisque peut-être tout le monde n'est pas au courant de ce dispositif.
Voilà, et on aura aussi peut-être des informations sur les aides du PRE. Rendez-vous aussi avec le CLAS, c'est quoi et pourquoi, qu'est-ce que le CLAS? C'est Isabelle Faure de l'ESC Ville-Marie que tu as reçu en interview par téléphone. Voilà, et puis on aura aussi peut-être le CLAY.
Oui, alors là c'est Sabrina Boff de la mairie de Carpentras qui nous explique un petit peu ce qu'est les CLAY. Puis nous avons aussi reçu une directrice et un directeur de CLAY qui eux nous expliquent concrètement en quoi ça consiste.
Et puis par la suite, rendez-vous aussi avec la dernière proposition qu'on propose, le dernier fichier de cette émission. On est allé à Caron notamment.
Oui, pour la présentation du projet de maison de la parentalité de la COV qui devrait voir le jour dans quelques années, puisque pendant une semaine, plusieurs ateliers ont été organisés avec des professionnels, mais aussi avec des parents, pour prendre un petit peu leur avis sur les services que pourrait proposer cette maison de la parentalité.
Ça, c'est le sommaire un petit peu de cette émission. Et donc, pour commencer, on vous propose d'écouter un petit peu les premières impressions des parents et des enfants à cette rentrée scolaire qui a eu lieu maintenant il y a quelques petites semaines. On écoute.
Et est-ce que vous avez préparé cette rentrée d'une manière ou d'une autre?
Pas du tout. Hier, je l'ai couché un peu plus bonheur que d'habitude, c'est tout.
Pas plus qu'une autre, parce que après, par rapport au Covid, c'est sûr, c'est pas évident pour les petits d'avoir le masque, c'est l'inconvénient qu'ils ont pour eux, quoi.
Oui. Psychologiquement un petit peu quand même, parce que ça, on passe d'un cadre maternel, on porte pas son sac, et maintenant il faut porter le sac et on aura des devoirs ce soir. On se prépare à ça, surtout à ça.
Pas vraiment, à part lui dire qu'il allait devoir porter le masque et que ils grandissaient tous les deux, chacun de leur côté quoi.
Oui, on lui a expliqué un peu le fonctionnement du collège par rapport à la primaire.
Bien sûr, oui, ils se languissent un peu la rentrée, c'est normal hein, donc ils sont tous à fond, ils préparent leurs affaires, ils ont pas dormi de la nuit, comme toutes les années. Hein.
Tout ce qui est fourniture, après on l'a aussi motivé parce que c'est pas évident, changer de région et tout, mais on l'a préparé à travailler.
Est-ce que vous avez des appréhensions justement par rapport à cette rentrée?
J'avais des appréhensions parce que je pensais de pas rentrer avec lui, que d'habitude on les accompagne jusqu'à dans la cour. Et là je viens de voir marqué que les CP et les nouveaux élèves, on a le droit de rentrer dans la cour. Alors c'est une bonne surprise et je suis soulagée. Et lui aussi, parce qu'il avait un petit peu peur, quoi.
J'espère que ça ne sera pas en visioconférence aussi, parce que ça, c'est pas trop terrible pour les petits.
Pas vraiment. Je sais que ça va bien se passer. Après, j'étais un peu dégoûtée que mon fils soit obligé de porter le masque parce qu'il a que 6 ans. Donc je trouve ça un peu fou, sachant que c'est cette année où ils vont apprendre vraiment à articuler, à bien parler pour pouvoir apprendre à lire et à écrire. Donc je trouve ça un peu bête. Et par contre, qu'on puisse les accompagner cette année, c'est bien, ça change.
Oh non, je pense que c'est plus pour ma fille que ça va être un petit peu dur parce que c'est sa première année. Après, j'appréhende plus pour ma fille qui va rentrer en troisième par rapport au pass sanitaire. Et après, on va voir la suite des événements en fait. Hein.
Est-ce que vous avez des conseils pour les autres parents, peut-être pour réussir la rentrée?
Que les enfants se couchent bonheur, si. Que les enfants se couchent bonheur parce que les journées sont longues.
Chaque parent a sa manière de faire. J'ai aucun conseil à donner. Chaque parent a ses petits mots qui rassurent les enfants. Moi, la mienne, j'essaie de l'assurer comme je peux. J'ai pas de technique spéciale à donner à personne.
Le préparer déjà, lui expliquer un peu le fonctionnement. Et puis je pense que tout va se faire aujourd'hui, quoi.
Après, c'est une question d'une semaine ou deux d'adaptation. Et, voilà. Et ça se fera tout seul, quoi. Mais tout se passe par là, en fait. Hein.
On va bien se préparer, je pense. Ne pas stresser, je pense que si on stresse, c'est pas bon. Donc avec tout ce qui se passe autour du Covid, etc., si on les stresse encore plus, c'est pas bien.
Est-ce que vous avez des appréhensions ou des inquiétudes par rapport à cette rentrée ?
Non.
Est-ce que tu connaissais le collège ou pas ? T'as eu peut-être de la famille qui est déjà passée ?
Ma grande sœur, elle est marchée, elle est allée au collège, du coup elle m'a expliqué un peu et ben ça a l'air bien et je vois pas pourquoi m'inquiéter.
Et est-ce que peut-être tu connais déjà les enseignants que tu vas avoir ? Tu vas le découvrir là aujourd'hui ?
Ma sœur, elle m'en a parlé un peu des enseignants, mais après je vois pas trop.
Donc là, tu vas rentrer en quelle classe ? Tu peux nous rappeler ?
En 6e.
Voilà, donc en 6e. Et est-ce que déjà tu sais avec qui tu vas être en classe ? Non, pas du tout, ça c'est tiré au sort ?
Non, mais je sais que je vais être en 6e 5.
Est-ce que peut-être t'as préparé des choses ? Est-ce que tu as été un peu juste avant la rentrée ?
Oui, un peu.
À part le sac, peut-être, les cours, réviser, pas du tout.
Si, un peu.
Alors, Eliana, justement, bah tiens, pour toi, est-ce que tu es un petit peu inquiète de cette rentrée ? C'est ta première fois, est-ce que tu connais le collège ? Pas du tout ?
Pas du tout, non.
Et t'as eu des informations avant sur ce collège ? T'as fait quelques recherches ?
Non,
pas du tout.
Pour la maman ?
Non, nous, on est nouveau dans la région, donc... Bon, je sais qu'il a une bonne réputation, beaucoup de taux de réussite. Après, on va dire que c'est pas le collège qui fait les élèves, c'est les élèves pour le collège.
Donc là, tu vas rentrer en 6e.
Oui, malheureusement.
Pourquoi malheureusement ?
Oui. Elle appréhende beaucoup, voilà, c'est tout.
Et quelles sont les solutions peut-être pour faire appréhender un petit peu moins, la conseiller, la rassurer ?
Lui dire que c'est qu'une étape, c'est une étape à passer pour elle, c'est tout. Voilà.
RTVFM, l'esprit jeune.
Et de retour dans cette émission Parents Autrement avec, je rappelle, la thématique de ce mois, c'est aider les parents et les enfants à préparer leur rentrée pour réussir leur année scolaire. Et Stéphanie, tu es allée à la rencontre du PRE, notamment de Laurence Lodi et Agnès Andrivon, il y a quelques jours.
Oui, on est allé à leur rencontre et puis elles nous ont donné quelques conseils pratiques pour les parents, mais aussi pour les enfants, afin que l'année scolaire se passe le mieux possible.
On vous propose donc d'écouter cette interview que tu as réalisée en centre-ville de Carpentras, directement au PRE.
Nous nous trouvons aujourd'hui au PRE dans le cadre de l'émission sur la rentrée scolaire et sur comment réussir sa rentrée. Alors nous sommes aujourd'hui avec Madame Andrivon, responsable du PRE. Bonjour.
Bonjour.
Et avec Madame Lodi également, qui est référente de parcours au sein du PRE. Bonjour Madame Lodi.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le PRE, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas ce dispositif ?
Alors le PRE, donc c'est le programme de réussite éducative. C'est un dispositif qui relève de la politique de la ville et qui, sur Carpentras, est porté par la COV. Donc ce dispositif vise à proposer des parcours et des solutions individualisées à des enfants de 2 à 16 ans qui rencontrent des difficultés dans leur scolarité et dont les causes sont diverses et qui empêchent la réussite scolaire et éducative. Donc nous, on est sur des champs d'action qui sont multiples, qui sont la santé, l'accompagnement à la parentalité, l'action socio-éducative. Voilà, et notre porte d'entrée, c'est toujours la scolarité, quoi qu'il arrive. Et la finalité, c'est toujours, pour nous, pour le PRE, c'est ce qu'on défend, l'épanouissement de l'enfant dans sa scolarité. Voilà, on insiste sur la question du résultat scolaire qui n'est pas une fin en soi, mais en tout cas, l'épanouissement de l'enfant, c'est ce qu'on doit viser. Et donc, ce dispositif s'adresse plus particulièrement aux enfants qui vivent sur les quartiers prioritaires de la ville, sur Carpentras, donc il y en a 4. Mais depuis 2019, c'est ouvert à tous les établissements de Carpentras. Alors, c'est important de préciser que donc, le PRE, c'est une équipe de référentes. Il y a 4 référentes de parcours, une secrétaire et donc moi-même. Mais nous travaillons en réseau avec tout un tas de partenaires de santé, d'associations, etc. Et on a aussi une équipe de vacataires. Elles sont 4 qui interviennent sur des actions plus spécifiques de tutorat auprès des enfants suivis. Les familles peuvent faire une démarche volontaire de se présenter et de demander un accompagnement, mais c'est vrai que la majorité des enfants nous sont orientés par l'école. Et une partie par des partenaires comme le département, comme certaines associations avec lesquelles on travaille. Voilà, mais notre partenaire privilégié, on va dire que c'est l'éducation nationale.
Le PRE met-il en place des choses pour préparer la rentrée scolaire ?
Alors, jusqu'à présent, on travaillait un petit peu en individuel avec les enfants pour préparer avec chacun sa rentrée. Là, on a souhaité plutôt travailler en groupe parce qu'on trouvait que le groupe, c'était une richesse. Et on a mis en place des ateliers donc, sur plusieurs thèmes. Donc le premier, c'est comment bien connaître son école ou son collège. collège. Ensuite, bien maîtriser les fournitures dont on a besoin pour ce qu'on a à faire, donc surtout pour les collégiens. Son emploi du temps, comprendre les changements, comment ça fonctionne. Accéder à son code Pronote facilement, à ses outils de travail. Organiser son travail régulier à la maison. Donc tous ces thèmes-là, on les abordera en petits groupes. Et on finira sur la gestion un petit peu des émotions, de ce que ça occasionne pour chacun, tout ça émotionnellement. Et puis de comment on prend des temps de relaxation, de détente pour aborder tout ça quand l'école est un facteur de stress.
Alors il y a aussi un thème important dont on a parlé hors micro, c'était la communication. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot ?
Oui, je pense qu'un des points les plus importants, c'est vraiment la communication enfant-parent. Donc que l'enfant puisse oser interpeller son parent ou ses parents quand ça va pas ou quand ça va bien, ou partager, échanger, donc dans les deux sens, hein, enfant-parent, parent-enfant. Et vraiment aussi la communication avec l'établissement scolaire, donc les parents avec les établissements scolaires, quels qu'ils soient. N'hésitez pas à aller poser des questions, demander des informations. Et plus vous en saurez sur le collège, plus ça sera facile aussi pour votre enfant de s'y sentir bien, parce qu'il sentira que vous, les parents, vous le maîtrisez.
Et s'il y avait des conseils à donner aux familles, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ?
Donc nous on voit plusieurs thèmes importants à décoder un petit peu avec les enfants. Donc on a parlé de la communication juste avant. Bien faire avec l'enfant l'état des lieux des fournitures dont il a besoin, en fonction, alors si c'est au collège, en fonction des matières, de façon à ce qu'il puisse s'y retrouver. L'aider à organiser son cartable, à organiser son emploi du temps et ses devoirs. Même si on ne sait pas faire en tant que parent, en tout cas partager ça avec l'enfant, c'est très important. Parce que lui, il peut exprimer que ça va pas, qu'il sait pas faire, qu'il a pas forcément compris. Et du coup, le rôle du parent, c'est peut-être aussi d'être en lien avec l'établissement scolaire, avec l'école, avec le collège, avec la vie scolaire, l'enseignant ou l'enseignante, de façon à essayer de comprendre ce qui est attendu et d'aider l'enfant à bien démarrer sa scolarité dans la classe où il arrive cette année.
Alors, une rentrée réussie, ce n'est pas que le travail scolaire, mais c'est aussi des loisirs. Alors, est-ce que c'est important de pratiquer une activité extrascolaire ?
Ce qu'on peut dire, c'est que c'est peut-être important de se détacher du résultat scolaire et de garder à l'esprit la réussite scolaire qui passe par l'épanouissement de l'enfant. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas si grave d'avoir des résultats qui sont moyens, à condition, je sais pas si on peut dire moyen, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que son enfant soit bien dans sa scolarité. Et que ça passe par aussi des temps hors scolarité qui sont épanouissants. Donc des activités, donc des temps de calme, des temps de partage avec sa famille, avec ses copains, etc. Et peut-être de lever un peu la pression du résultat scolaire.
Eh bien merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous, Agnès Andrivon, êtes responsable du PRE et vous, Laurence Lodi, vous êtes référente parcours au sein du PRE. Merci beaucoup.
Merci à vous.
RTVFM, l'esprit jeune.
Et RTVFM, l'esprit jeune, dans cette émission Parents Autrement. Je rappelle la thématique de ce mois, aider les parents et les enfants à préparer leur rentrée pour réussir leur année scolaire. À l'instant, Stéphanie est donc à rencontrer le PRE. Et maintenant, on va continuer avec le CLAS. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs le CLAS, Stéphanie ?
Alors le CLAS, c'est le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Et c'est ce dont nous a parlé Isabelle Faure du centre social de Ville-Marie. Donc elle nous a expliqué un petit peu ce qu'est ce dispositif de manière générale, mais aussi ce que propose son centre social pour les enfants de la cantine notamment.
Eh bien, on écoute donc cette interview et on revient juste après. On parlera notamment du CLAI. À tout de suite.
Isabelle Faure, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes la directrice du centre social de Ville-Marie et vous allez aujourd'hui nous parler du dispositif de classe ou contrat local d'accompagnement à la scolarité. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce que ce dispositif ?
Alors c'est un dispositif d'accompagnement à la scolarité et non pas d'aide aux devoirs. Des fois on confond les deux, mais ça fait une grande différence dans le sens où on n'est pas là pour aider les enfants à faire leurs devoirs, mais pour leur donner une méthodologie pour qu'ils puissent mieux faire leurs devoirs tout seul ou avec leurs parents, et du coup aussi leur apporter d'autres compétences à réinvestir en proposant des ateliers pédagogiques, ludiques, où ils vont pouvoir remettre en œuvre leurs connaissances qu'ils ont apprises à l'école dans des jeux ludiques, dans des autres façons d'apprendre. Donc ça va être par exemple un atelier autour du livre, un atelier des jeux de société avec des règles à respecter, enfin voilà. C'est vraiment de l'accompagnement à la scolarité, hein. On est là aussi pour guider le parent, comment il va pouvoir accompagner son enfant au cours de la scolarité. On va lui proposer des outils, parce que parfois certains parents maîtrisent pas bien la langue française ou ont peur de mal faire, ou etc. Et tout parent peut être tout à fait compétent pour aider son enfant. Après, il sait pas forcément comment s'y prendre, donc on va être là comme support, comme proposition pour aider le parent à bien accompagner accompagner son enfant tout au long de sa scolarité.
Et comment ça s'organise tout au long de l'année ?
Alors nous, on fonctionne le soir après l'école. Donc nous, on s'adresse prioritairement aux habitants de notre territoire, hein, donc c'est-à-dire les enfants qui vont à l'école de la cantine. Alors, on ne prend pas d'enfants qui ne sont pas dans l'école de la cantine, parce qu'on n'a pas assez de place. Donc les enfants qui vont à l'école de la cantine peuvent s'inscrire chez nous. Alors soit c'est un repérage par les professeurs, par les instituteurs qui repèrent des difficultés et du coup, ils orientent les familles vers chez nous. Soit c'est la famille qui fait la démarche. Soit ça peut être des repérages par d'autres associations comme le PRE. En fait, c'est un repérage concerté de familles et d'enfants qui sont orientés vers notre dispositif.
Et que va proposer le centre social de Ville-Marie au niveau du classe ? Peut-être que des ateliers vont être mis en place ?
Voilà, tout à fait. Donc nous, du coup, comme je vous disais, on fonctionne donc après la classe. Donc à 4h30, on va chercher les enfants qui sont inscrits dans nos ateliers à l'école de la cantine. Ils partent avec les animateurs. On a les locaux en face de l'école. Hein. Il y a juste une route à traverser. Comme ça évite aux parents de venir chercher leur enfant et de l'amener chez nous. Ça leur fait un trajet, un aller-retour en moins. Donc on récupère les enfants, on les fait goûter. Et ensuite, on organise le temps de l'accompagnement scolaire en deux temps. Donc un premier temps d'aide méthodologique à faire les devoirs. Parce que même si en primaire, sont censés ne pas en avoir, ils en ont quand même. Et donc, voilà, quand ils vont rentrer chez eux à 18h, on comprend bien qu'il est trop tard pour que les parents puissent aider les enfants correctement. Donc, on va permettre aux enfants de faire leurs devoirs dans des bonnes conditions, leur apporter des outils méthodologiques, proposer éventuellement aux parents qui le souhaitent et qui le peuvent de venir sur certaines séances pour s'approprier les outils, les méthodes. Et puis après, il y a un deuxième temps de la séance où là, on va mettre en place un atelier. Donc, ça va être, comme je le disais tout à l'heure, soit un atelier on va dire plus culturel, soit plus sportif, mais toujours un atelier pédagogique en lien avec les savoirs appris à l'école.
Et alors, qui est-ce qui finance ce dispositif ?
Alors, le financement de ce dispositif, il est multiple. Hein. C'est une plateforme avec plusieurs partenaires. Donc, il y a la Caisse d'allocation familiale qui est moteur de ce dispositif, mais après, il y a l'État, il y a la MSA, il y a la COV, la mairie, implicitement par les fonctionnements qu'ils nous donnent. Voilà, donc c'est tout un panel de partenaires qui finance ce dispositif.
Et alors à Ville-Marie, vous nous avez dit que c'est plutôt réservé aux enfants qui vont à l'école de la cantine. Du coup, c'est vraiment spécifique pour les élèves qui sont à l'école primaire ?
Oui, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le dispositif classe tel qu'il a été conçu par les partenaires financeurs. C'est-à-dire qu'on réserve les places à un territoire. Donc nous, on est basé sur le territoire de la cantine, donc on fonctionne avec l'école de la cantine. Après, par exemple, le centre social Tricadou, qui ont différents quartiers, vont fonctionner avec différentes écoles de leur quartier. D'autres associations qui peuvent être au centre-ville vont fonctionner avec les écoles du centre-ville. Voilà. Donc, on se divise chacun le territoire pour laisser personne de côté. Mais voilà, c'est comme ça que c'est organisé. Donc, c'est l'école primaire de la cantine. Et puis, pour le secondaire, ça va être le collège d'Audet. Donc, ça va être les enfants qui sont, les collégiens qui sont au collège d'Audet. Puisqu'il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi de l'accompagnement secondaire, qui fonctionne exactement de la même façon que le primaire.
Et est-ce que c'est gratuit pour les familles ?
Oui, c'est totalement gratuit. Après, il suffit juste qu'ils inscrivent leurs enfants au sein du centre social. Après, forcément, qu'on leur demande de prendre l'adhésion au centre social, mais c'est pour toutes les activités du centre social pour toute l'année. Donc, c'est une adhésion de famille à 10 euros pour toute l'année. Mais c'est pas l'activité en elle-même qui est payante.
À Ville-Marie, il y a combien de places pour les enfants ?
Alors, nous, on est censé accueillir un maximum de 26 enfants, mais souvent, ça déborde. Après, ça dépend les années. On fonctionne avec des bénévoles, parce qu'on n'est pas assez nombreux en salariés pour faire de la qualité. Donc, heureusement qu'on a des bénévoles qui viennent nous aider pour faire des petits groupes et permettre des accompagnements plus qualitatifs pour les enfants. Donc, grâce au nombre de bénévoles, chaque année, parfois, on augmente un peu les places. Si il y a des personnes qui entendent cette émission et qui seraient intéressées par donner de leur temps, bien sûr qu'ils peuvent nous solliciter parce qu'on est toujours à la recherche chaque année de bénévoles pour nous aider.
Ils peuvent vous joindre au centre social directement ?
Oui, tout à fait, sur la ligne de l'accueil.
Peut-être qu'on peut rappeler le numéro pour les gens qui nous écoutent.
On peut rappeler le numéro 04 90 67 08 42.
Eh bien, merci Isabelle Faure d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice du centre social de Ville-Marie et donc vous venez de nous expliquer ce qu'est le contrat local d'accompagnement à la scolarité et ce que vous proposez au centre social de Ville-Marie. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et vous êtes toujours dans l'émission Parents Autrement sur l'antenne d'RTVFM. Avec à l'instant, donc, on parlait du CLAS, le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Et Stéphanie, tu es maintenant allée rencontrer Sabrina Boff ainsi que Myriam Belfond et Gilles Etienne. Qui sont-ils et de quoi vas-tu nous parler ?
Alors, Sabrina Boff est responsable du service enfance, jeunesse et vie éducative à la mairie de Carpentras. Donc, elle nous a expliqué un petit peu comment le CLAE, précisons quand même que le CLAE, c'est centre de loisirs associé à l'école, comment le CLAE est mis en place à Carpentras. Et Myriam Belfond et Gilles Etienne sont tous deux directrices et directeurs de CLAE à Carpentras également. Et donc, vraiment, ils nous ont expliqué en quoi ça consiste sur le terrain. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui devant les micros d'RTVFM Sabrina Boff, responsable du service Enfance, Jeunesse, Action Éducative de la mairie de Carpentras. Bonjour Madame Boff.
Bonjour.
Également à nos côtés, Myriam Belfond, vous êtes directrice du CLAE du groupe scolaire des Amandiers. Bonjour Madame Belfond.
Bonjour.
Et enfin Gilles Etienne, vous êtes directeur de CLAE de l'école maternelle Misé-Pouzol et de l'école François Jouve. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors nous allons parler dans cette interview du dispositif de CLAE ou centre de loisirs associé à l'école. Pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer justement en quoi consiste ce dispositif ?
Simplement à ce que les enfants, sur les temps libres que constitue le périscolaire, c'est-à-dire tout ce qui encadre l'école, soient pris en charge et pas simplement gardés, comme on appelait avant les garderies. Non, là maintenant, ce sont des centres de loisirs associés à l'école. C'est le terme utilisé quand on parle de CLAE. Et l'objectif, c'est de prendre en charge et de construire quelque chose avec les enfants pendant ces temps-là.
Et du coup, ces temps-là, c'est le matin avant l'école, après l'école ?
Alors, il y a effectivement un accueil des enfants le matin pour les parents qui travaillent. Alors, en fait, c'est pour tout le monde. Mais l'essentiel des enfants que nous avons, c'est les enfants de parents qui travaillent. Donc, nous accueillons les enfants à partir de 7h30 le matin, sauf à l'école de la cantine, où les enfants sont accueillis à partir de 7h le matin. Et donc, on les a jusqu'à 8h20, que les enseignants prennent le relais dans les cours d'école. Ensuite, on les prend en charge à 11h30 pour la pause méridienne, pour le repas de midi. Et on les reprend en charge à 16h30 pour le CLAE du soir, jusqu'à 18h.
Et alors, justement, quelles sont les activités proposées au sein des CLAE pour occuper les enfants ?
Cela dépend selon le projet pédagogique de chaque école. Donc chaque directeur de CLAE avec leur équipe font des projets pédagogiques associés au projet pédagogique des écoles, mais aussi au PEDT qui est mis en place par la collectivité. Donc il peut y avoir toutes sortes d'activités, que ça va être manuelle, sportive, de coopération. Pour vous donner un exemple, sur mon école, on est en train de créer un potager, autant sur le côté maternel que sur le côté élémentaire.
Et alors, à qui s'adresse ce dispositif ?
Les enfants qui viennent à l'accueil du matin, ce sont essentiellement des enfants dont les parents travaillent à 8h ou un peu avant 8h. Mais ce ne sont pas que ces enfants-là. Et ensuite, sur les cantines et sur le soir, ce ne sont pas forcément... Il y a aussi des enfants le soir dont les parents travaillent, mais c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a aucune préférence de fait pour les uns ou pour les autres.
Le CLAE est un service public. Donc c'est un service municipal qui est à destination de toutes les familles qui fréquentent les écoles de Carpentras. Après, chaque famille utilise ce service public pour des raisons diverses et variées. Aujourd'hui, il existe des horaires différents sur l'école de la cantine parce qu'il y a eu un diagnostic et des repérages qui ont été faits pour dire que dans cette école, au vu de sa situation géographique, elle permettait à des familles qui travaillaient à l'extérieur de Carpentras, sur Avignon, de déposer leurs enfants dans l'école assez tôt, en tous les cas plus tôt que sur le reste des écoles, pour pouvoir après partir travailler sur Avignon. Après, c'est une proposition. Les familles s'organisent comme elles le souhaitent et donc peuvent avoir une dérogation pour accéder dans cette école-là particulièrement parce que le CLAE est élargi et les horaires sont un peu plus souple. Pour autant, rien n'est obligatoire. Et puis, comme l'a dit Myriam tout à l'heure, les projets de l'école sont liés à un projet éducatif de territoire, donc le PEDT. Ce PEDT est renouvelé tous les 3 ans. Aujourd'hui, on va renouveler le nouveau PEDT, donc sur 2022. On va devoir définir un nouveau projet éducatif qui sera en fonction de toutes les modifications liées à la structure des familles, liées à la géographie, liées à plein de facteurs et à l'organisation des écoles. Des rythmes scolaires, tout ça, ouais. Tout ça c'est lié et donc ça évolue, rien n'est figé.
Je voulais juste rebondir sur un mot que vous avez utilisé tout à l'heure et qui est un mot qui pour nous est relativement péjoratif parce que souvent les gens pensent comme ça. Autant on ne parle plus de garderie, on ne parle pas non plus d'occupation. C'est-à-dire on n'est pas là pour occuper les enfants. On est là pour prendre en charge une activité qui est construite sur un projet et pour faire avec les enfants. Et le terme d'occupation est vécu comme un terme assez péjoratif parce que déjà que les animateurs, les gens ont du mal à penser qu'un animateur, il travaille. Pour les gens, un animateur, il s'amuse et il fait qu'occuper les gamins, ce qui n'est pas ça.
Et alors, j'avais une autre question. Est-ce qu'il y a des CLAI dans toutes les communes ?
En fait, chaque commune a l'obligation d'organiser, de mettre en place un service périscolaire. Les communes choisissent soit de le faire en direct, donc un service municipal dédié à l'organisation du périscolaire, soit ils passent par la délégation de services publics et donc font un appel d'offres à des associations, à des entreprises, quelles qu'elles soient, pour qu'elles mettent en place le périscolaire sur la commune. Nous, sur la commune de Carpentras, le choix a été fait de le porter en direct. Et donc, c'est un service municipal avec donc 9 directeurs de CLAE, avec à peu près 80 animateurs sur les différentes écoles, avec une cinquantaine d'ATSEM, avec différents enseignants qui proposent les études le soir, puisque dans le périscolaire, on a des activités, mais on a aussi la possibilité de faire les devoirs. Donc, ce sont des études surveillées qui sont organisées et animées par des enseignants diplômés qui peuvent accompagner les enfants qui auraient besoin d'études surveillées sur le temps périscolaire.
Et alors, vous, Madame Belfond et Monsieur Étienne, quel est votre rôle en tant que directrice et directeur de CLAE ?
Donc nous, notre rôle, c'est de manager les animateurs qu'on a sous notre responsabilité, de faire le lien entre... On est un peu le lien de la municipalité avec l'éducation nationale, puisqu'on coordonne nos projets avec les écoles. On fait cette transition avec les directeurs. C'est la coordination du montage de projets qui va se dérouler sur nos temps périscolaires. Après, ce qui est primordial aussi pour nous, c'est le lien qu'il y a avec les familles. Voilà, on fait aussi le lien entre les familles, l'éducation nationale, et la mairie.
Oui, c'est-à-dire qu'on est en quelque sorte le lien de proximité pour les parents avec la commune et avec les services. Avant, les parents devaient se rendre en mairie, dans le service de la DVE, pour inscrire leurs enfants sur les activités périscolaires. Depuis qu'il y a eu la mise en place des directeurs, les parents, petit à petit, se sont détachés du service central pour avoir un service de proximité sur les inscriptions avec les directeurs de CLAE. Ça n'empêche pas qu'ils ont un lien quand même avec la DVE, avec le bureau central, puisque tout ce qui va concerner les paiements, les demandes de dérogation, ça passe quand même par le central et ensuite ça revient vers nous. Et en même temps, comme le disait Myriam tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'il y a une quarantaine d'années, il y a beaucoup d'établissements dans les différents villages ou villes qui avaient des concierges dans les écoles qui étaient des agents des municipalités. Alors nous, on ne va pas dire que je vais pas dire qu'on est concierge, mais on est quand même un lien important entre les enseignants, les directions d'école et la municipalité, et on est aussi l'intermédiaire avec les parents. D'accord ? Donc on devient effectivement un porte-parole, on est à l'écoute. Et on peut faire remonter à ce moment-là tout ce qui est important pour les familles autant que pour les enseignants.
Et donc pour inscrire son enfant dans un CLAE, les parents peuvent passer directement par les directrices, directeurs ?
Soit ils passent directement par nous, directeurs de périscolaire, soit ils ont le site qui est proposé en ligne mvf.carpentras.fr où il y a tout un déroulé pour faire son inscription en ligne.
Combien ça coûte aux familles d'inscrire son enfant en CLAE ?
Alors en fait, il y a une tarification qui est votée en conseil municipal. Cette tarification, elle dépend des revenus des familles. Donc chaque famille ne paye pas la même chose en fonction des revenus de celle-ci. Et donc il y a des forfaits en fonction du nombre de jours d'inscription. Toutes les informations sur la tarification sont aussi en ligne sur le site internet de la ville. Donc les familles peuvent voir le coût du périscolaire. Si besoin.
Et justement, qui est-ce qui finance ce dispositif ?
Alors en fait, il y a une participation des familles, puisque réellement, la famille ne paye pas la totalité, effectivement, du coût. Et donc ensuite, il y a ce qu'on appelle la participation de la CAF, donc la prestation de service de la CAF. La CAF rembourse une partie à la collectivité, tout simplement. Après, les familles peuvent aussi avoir d'autres aides financières par différents services, mais globalement, c'est la CAF qui prend en charge la majeure partie de ce financement-là. Et puis après, la collectivité qui prend une autre partie.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez rajouter ?
Moi, je pense qu'il y a une chose qui est très importante, parce que vu de l'extérieur, ça peut poser des questions pour certaines personnes, notamment les parents. Mais dès l'instant où une commune a fait le choix de se déclarer en périscolaire, donc sur les études du soir, sur les accueils du matin et sur les cantines, ça veut dire qu'on est soumis à une réglementation et qu'effectivement, on n'est pas comme dans un centre de loisirs où la réglementation dit qu'il faut un animateur pour 12 enfants en alimentaire et un animateur pour 8-10 en maternelle. Là, on est sur de l'encadrement, un adulte pour 18 enfants en élémentaire et un pour 14 en maternelle. Ce qui est quand même relativement important et ce qui nous amène à être obligés de construire les choses parce que mettre en place une activité avec 18 enfants et un adulte, c'est pas tout simple non plus. Donc je crois que ça, c'est aussi très important de le dire. Après, je dirais que c'est un peu, ça va aussi en fonction de chaque directeur et de l'identité et de l'histoire de l'école aussi, sur laquelle il faut bien s'appuyer. On va prendre un exemple sur certains quartiers aussi, où on va avoir des enfants qui, en dehors de l'école, ne sortent pas de leur appartement. Ils restent à l'intérieur de la maison. Donc du coup, quand ils sont à l'école, pour eux, c'est important de pouvoir s'épanouir à l'extérieur aussi et qu'on mette des choses en place à l'extérieur. Et le principe du périscolaire aussi, c'est on n'impose pas quelque chose. Par contre, on fait avec l'enfant. On joue avec, on accompagne l'enfant, mais en aucun cas on fait à sa place.
Merci pour ces précisions. Si vous êtes intéressé pour travailler en tant qu'animateur dans un CLAE, n'hésitez pas à envoyer votre CV à sabrina.boff@carpentras.fr. Je tenais à vous remercier tous les trois, donc merci Sabrina Boff, Myriam Belfond et Gilles Etienne d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que Madame Boff, vous êtes responsable du service Enfance Jeunesse Action Éducative de la mairie de Carpentras. Madame Belfond, vous êtes directrice du CLAE du groupe scolaire des Amandes. Et Monsieur Etienne, vous êtes le directeur de CLAE de l'école maternelle Misé Pouzol et de l'école François Jouve. Donc vous nous avez aujourd'hui présenté le dispositif de CLAE ou centre de loisirs associé à l'école. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Et nous arrivons presque au terme de cette émission Parents Autrement. Et nous allons maintenant passer à un autre sujet. Il s'agit du projet de maison de la parentalité qui devrait voir le jour à Carpentras en 2024. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre de partenaires du territoire et de familles lors d'ateliers de concertation sur la parentalité organisés par la COV. Nous nous sommes entre autres entretenus avec Élodie Colle, directrice de la cohésion sociale, ainsi que Valérie Michelier, maire de Caron. On vous propose d'écouter cette interview. Et nous sommes aujourd'hui à la salle des fêtes de Caron dans le cadre d'ateliers de concertation sur la parentalité et notamment pour réfléchir à l'ouverture prochaine de la maison de la parentalité. On en parlera dans quelques instants. Nous sommes aujourd'hui avec Élodie Colle, directrice de la cohésion sociale à la COV. Bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons parler avec vous un petit peu de ces ateliers qui ont lieu aujourd'hui, donc ce mardi 21 septembre, mais notamment aussi le mercredi 22, le vendredi 24, où là il y aura les professionnels, les communes, les partenaires institutionnels et familles. Alors c'est pour réfléchir un petit peu, entre autres, notamment à ce projet de maison de la parentalité qui devrait ouvrir dans quelques années.
Oui, tout à fait. En fait, la COV ayant la compétence petite enfance depuis maintenant 2003, donc on a un certain regard et une expertise sur l'offre d'accueil sur le territoire et sur toutes les questions qui peuvent se poser pour les parents. On a constaté que même si sur le territoire, on a quand même beaucoup d'outils, il y a des crèches, les communes offrent des services aussi d'accueil à leur niveau. Pour autant, quand on est parent aujourd'hui, c'est assez compliqué de trouver l'endroit où on va avoir les réponses à ces questions, que ce soit au moment de l'arrivée de l'enfant quand il s'annonce, hein, donc la maternité et les services de PMI ont une place essentielle à ce moment-là. Mais après, une fois que l'enfant est arrivé, ben, ça s'arrête. Ensuite, on a certains vont se tourner vers la crèche, d'autres non. D'autres vont être assez isolés dans leur relation parent-enfant, d'autres vont facilement aller chercher de l'offre de services. Mais globalement, c'est pas simple quand on est parent aujourd'hui pour trouver les réponses à ces questions. Donc, on a souhaité réfléchir à un lieu ressource, un site ressource où l'objectif que nous sommes donnés, c'est que les parents puissent trouver l'ensemble des réponses à leurs questions.
Alors donc ce matin, il y a une réunion un petit peu des partenaires du territoire qui vont réfléchir à différentes questions, notamment à différentes thématiques, notamment le maillage et l'offre de services territoriaux, la qualité des lieux d'accueil, les activités proposées ou encore l'orientation vers les différents publics. Alors vous qui avez participé déjà à un atelier ce matin, qu'est-ce qu'il en ressort de cet atelier ?
Ben c'est vraiment intéressant, il ressort des idées vraiment très pratico-pratiques sur comment est-ce qu'on pourrait être meilleur dans ce qu'on fait aujourd'hui, puisque effectivement l'exercice il cherche à pas se cacher derrière son petit doigt, hein. À dire ce qui marche, d'accord, mais surtout à identifier ce qui ne marche pas, ce qui manque sur le territoire et à réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on pourrait y remédier. Donc il y a déjà des idées vraiment pertinentes.
Notamment donc des pistes d'amélioration par la suite. On a pu voir aussi que le Pouzuplan était le deuxième quartier politique de la ville le plus pauvre.
Oui, tout à fait. Donc on a à cœur aussi de pouvoir prendre en considération cette caractéristique qui malheureusement est difficile, hein, pour ses habitants. Et l'idée c'est que le lieu où on est en train d'acquérir pour pouvoir réaliser ce projet sera à proximité, à moins d'un kilomètre, hein, à 800 mètres précisément du quartier du Pou-du-Plan. Donc l'objectif de ce projet, c'est aussi d'aller chercher ceux qui ne viennent pas nous voir aujourd'hui. On est vraiment dans une démarche aller vers, l'accueil pour tous, hein, c'est-à-dire les familles qui se débrouillent facilement aujourd'hui, ben, elles sont déjà là, hein, elles nous connaissent déjà, elles viennent facilement nous voir. Et donc celles-là, on va les garder, évidemment. Hein, l'objectif, c'est de favoriser la mixité, ça c'est très important. Mais je dirais que l'ambition première de ce projet-là, c'est d'aller chercher tous ceux qui aujourd'hui ne viennent pas nous voir pour diverses raisons. Parfois parce qu'on a honte, parfois parce qu'on a peur d'être jugé, parfois par méconnaissance, enfin plein de raisons. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est établir la confiance, la relation, que les familles nous connaissent et qu'elles viennent nous voir en toute sérénité.
Et nous avons aussi à nos côtés Valérie Michelier. Vous êtes maire de Caron et vice-présidente à la COV, déléguée à la petite enfance, à la parentalité et aux actions éducatives. Bonjour.
Bonjour.
On va parler un petit peu donc de cette maison de la parentalité. Où va-t-elle se situer, puisque la COV a déjà plus ou moins un lieu prévu pour cette maison?
Alors, elle va se situer au sud de Carpentras, sur la route de Pernes, dans les anciens établissements Jima, qui ont été mis à la vente. Et au tout début de mon mandat, donc, je suis allée visiter ces lieux. Un hectare de terrain, une bâtisse en très très bon état, qui a une forme de maison en U, donc avec 1000 m² de surface exploitable. Et c'est un lieu parfait parce qu'il est proche de la voie rapide, proche de l'hôpital, proche du centre-ville et très bien desservi par les bus. Au sud de Carpentras et pour aussi les villages, très accessibles.
Alors si on revient un petit peu au début de ce projet, c'était pas forcément le lieu choisi au tout départ, c'est un projet plus ambitieux?
Oui, tout à fait, parce qu'au départ, il était prévu la réhabilitation des berlingots, de la crèche des berlingots, et d'y associer la maison de la parentalité sur le même lieu. Et c'est vrai que c'est quand même un lieu exigu, il manque de parking. Et donc nous avons choisi l'option de laisser la crèche des berlingots en centre-ville avec une réhabilitation qui va démarrer aussi d'ici l'année prochaine. Vraiment une réhabilitation de cette crèche historique, puisque c'est la première crèche de la ville de Carpentras. Les bâtiments datent de 1970, je pense. Et il est vraiment temps de la réhabiliter, de la moderniser. Mais on dissocie la maison de la parentalité et on fait un nouveau lieu avec une crèche supplémentaire pour accueillir des enfants en plus et une meilleure offre pour les parents du territoire.
Alors à l'intérieur de cette maison de la parentalité, pour l'instant, tout n'est pas défini. Qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement y retrouver ?
Justement, tout n'est pas défini parce que c'est le travail de cette semaine de concertation. Les partenaires doivent nous donner des idées, des besoins que nous allons identifier. Il pourra y avoir des salles, par exemple, qui pourront être utilisées par les associations pour proposer des ateliers d'éveil, de la culture. On pourra retrouver des work cafés sur des problématiques liées à l'éducation. Tout est ouvert et en fonction des propositions, nous adapterons donc les besoins. L'architecte mettra en dessin les demandes qui ont émergé de cette semaine.
Alors on peut peut-être, pour finir, rappeler le planning prévisionnel, en tout cas, 2021 jusqu'à 2024, entre les deux.
Mais entre les deux, il y aura l'année prochaine donc, le choix de l'architecte, puisque là, ce dernier semestre, c'est le programmiste va vraiment définir les besoins. L'année prochaine, le choix de l'architecte et la validation des plans, mais aussi des appels d'offres qui doivent être lancés pour un début des travaux en 2023. Et en 2024, une ouverture.
Élodie Coll, je vais revenir vers vous. Quels seront les services proposés au sein de cette maison de la parentalité?
Les trois volets sont les suivants, à savoir un accueil généraliste sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité que les familles puissent trouver toutes les réponses, l'accompagnement, l'orientation à leurs questions. Il y a également une crèche de 60 places avec la volonté d'avoir un fonctionnement expérimental, c'est-à-dire un lieu ouvert. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en crèche, les enfants accueillis répondent à une commission d'admission, etc. Il y a des horaires fixes, il y a un contrat qui est établi. N'importe qui ne rentre pas dans la crèche. Notre objectif demain, c'est d'avoir un lieu semi-ouvert où on puisse spontanément faire visiter la crèche à une famille qui n'a jamais confié son enfant pour créer la confiance et la relation. Pourquoi pas que la famille participe à un petit atelier de proposer aux enfants de la crèche. Voilà, on voudrait un lieu semi-ouvert. Le jardin extérieur. extérieur, pour le RAM et le LAEB, pourquoi pas l'ouvrir aussi à des familles qui voudraient passer un moment pour jouer, socialiser leurs enfants. Voilà, c'est le côté expérimental. Et le dernier volet, c'est que nous avons souhaité aussi que l'ensemble des services de la COV qui travaillent sur les questions de la parentalité, ils sont nombreux, puissent y être aussi sur place, de sorte à faire une sorte de circuit court de l'accompagnement des familles. Aujourd'hui, quand elles ont un besoin, on leur dit, ben, il faut aller là, donc il faut prendre rendez-vous, il faut le caler. Là, vous arrivez à la maison de la parentalité, vous voulez avoir un accueil, ben, vous montez à l'étage et vous êtes accueillis. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir de l'immédiateté, de la réactivité pour garder la relation.
Pour rappel, pendant plusieurs jours, vont se dérouler des ateliers de concertation sur la parentalité. Et aujourd'hui, quelles sont les idées qui ont peut-être émergé lors de cet atelier avec les partenaires du territoire ?
Il y a déjà de très bonnes idées qui sont sorties, notamment l'idée d'avoir un camion de la parentalité pour pouvoir aller dans les villages, dans les écoles et se faire connaître, parce que c'est pas tout de créer un lieu, il faut aussi qu'il soit connu. C'est aussi beaucoup marqué sur les questions de créer la confiance dès le premier accueil et d'avoir un accompagnement quasi individualisé pour créer cette confiance-là et ensuite fidéliser les parents. Le fait de proposer également un accueil de l'enfant pour que le parent puisse tranquillement être accueilli et parler auprès de professionnels sur ce temps-là, c'est vraiment très, très riche.
Merci Elodie Cole. Je rappelle, vous êtes directrice de la cohésion sociale à la COV et merci aussi à Valérie Michelier. Vous êtes maire de Caron et vice-présidente à la COV, déléguée à la petite enfance, à la parentalité et aux actions éducatives. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et maintenant, on va aller faire un petit tour du côté des ateliers justement de concertation sur la parentalité. Et je me trouve maintenant sur le stand l'orientation vers les différents publics. C'était la thématique donc de ce stand. Quelles sont peut-être un petit peu les idées ou les pistes d'amélioration ou les actions à mettre en œuvre qui sont ressorties lors de votre concertation?
Manque d'informations de certaines familles pour les offres de droits et de services, une communication moins stigmatisante, plus imaginative et plus positive, une offre de services plus large qu'aujourd'hui, prendre en compte l'état des parents, on a constaté que les parents travaillaient de plus en plus, étaient moins présents, ou alors qu'ils ne travaillaient pas et du coup ils manquaient de l'argent à la maison et déprimés. Utiliser un langage concret qui donne envie.
Je suis maintenant sur le stand les activités proposées. Est-ce que vous pouvez peut-être me parler un petit peu de vos idées qui ont émergé lors de cet atelier ?
Dans les fonctions existantes, on a constaté donc, qu'il y avait déjà beaucoup d'accueil dans toutes les structures qui étaient gérées par les différents partenaires, qu'il y a un réseau de la parentalité qui existe déjà sur le territoire depuis de longues années, qui est porté par le centre social de Ville-Marie. Les atouts qu'on a pu remarquer dans ce qui existe déjà, donc un réseau de partenaires au-delà de juste la parentalité qui est déjà existant, avec de nombreux partenaires impliqués et des projets qui fonctionnent déjà. Donc il n'y a pas besoin de forcément réinventer des choses. Dans le réseau de la parentalité qui a été un peu stoppé du fait de la crise sanitaire, il y avait quand même des rencontres régulières de comités techniques et de comités de pilotage. Dans ce qui semble freiner les parents dans leur parentalité, ce serait le manque de place d'accueil dans les crèches en général. Qu'il y a beaucoup de sollicitations envers les familles, mais que ce n'est pas forcément en concertation et que du coup, ben, elles ne peuvent pas être partout et que des fois, ça les démotive un peu. On a aussi donc la barrière de la langue. Dans les innovations, donc, ce qu'on aimerait voir apparaître, ça serait de trouver des moyens pour toucher les familles les plus éloignées et en plus grand nombre. Voilà, parce que des fois, on voit que quelques familles peuvent venir, mais on sait que dans le même territoire, il y a d'autres familles dans la même situation qui ne viennent pas. Renforcer les liens entre toutes les structures de façon à les dynamiser. Une question est comment impliquer les pères davantage. Donc on a pu constater que pour des sorties à l'extérieur, ils venaient plus que sur des choses sur site. Et voilà, et après d'intégrer par exemple les cours de français alphabétisation à proximité d'autres actions, de décloisonner, comme par exemple proposer en même temps de la psychologie, l'apprentissage de la langue et la communication.
Nous nous trouvons désormais avec les familles qui participent à ces ateliers de concertation, ateliers qui, on le rappelle, ont lieu dans le cadre de la future création de la Maison de la Parentalité de la COV. Est-ce que selon vous, les activités proposées et l'offre de services sur le territoire, est-ce que c'est assez riche ? Est-ce qu'il y a assez de choses ?
Je pense qu'il y a du choix, mais on n'est pas au courant de tout le choix. Après, tout dépend aussi de l'âge des enfants, etc. Moi, je suis à un stade petit, puisqu'il y a les petites. Après, par exemple, moi, je n'étais pas au courant de... tout ce qui est mission locale, etc., puisque ça ne me concerne pas encore. Bah, voilà, après, il faut encore élargir, je pense, un petit peu tout ce qui est nombre de places ou des choses comme ça.
Et est-ce que selon vous, il y a un manque de communication justement sur tout ce qui existe ?
C'est pas forcément un manque de recherche, par exemple, mais c'est parce que c'est un peu diffus. Je pense qu'il faudrait juste regrouper justement tous ces...
Les structures. Toutes les,
voilà.
Et est-ce qu'il manque des choses, selon vous, sur le territoire ? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour compléter l'offre déjà existante ?
Au niveau manque, c'est au niveau médical déjà. Il y a un réel manque au niveau médical, que ce soit pédiatre, pédodentiste, pédopsychiatre. Peu qu'il y a, ils sont saturés. Donc là, c'est un sujet sur lequel il y a un vrai manque localement.
Et nous sommes maintenant sur l'atelier d'orientation vers les différents publics. Alors, quels sont les besoins et attentes mis en exergue lors de cette concertation ?
Alors, on a parlé de maintenir, peut-être, ou favoriser des liens par le biais des visioconférences, créer un listing sur les parents ayant besoin d'accompagnement, créer un outil de communication, un petit journal, ou rajouter une page sur le livre de la COV, centraliser, en fait,
l'information,
voilà. Via un guichet unique. Et
Oui, parce que j'ai entendu tout à l'heure parler d'appli sur Facebook, sur les réseaux sociaux aussi, notamment une page.
Oui, ben, en fait, on peut, je dirais, moderniser la proximité. Moderniser la proximité et s'adapter avec les moyens qu'il y a aujourd'hui.
Tout ce qui est flyer, est-ce que vous lisez peut-être ?
Oui, il y avait des flyers à mettre dans les cahiers des enfants, les cahiers de liaison des parents et à la radio aussi.
Et nous arrivons maintenant au terme de cette émission Parents Autrement. Merci Stéphanie.
Et merci à toi Florian. Donc on espère vous avoir apporté peut-être quelques conseils pour réussir cette rentrée scolaire, mais aussi vous avoir informé de certains dispositifs qui existent sur le territoire et dont vous n'étiez peut-être pas au courant, mais aussi vous avoir informé sur ce projet de maison de la parentalité.
Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Parents Autrement, ce sera fin novembre, notamment sur la gestion des émotions, comment gérer ses émotions et aider son enfant à mieux gérer les siennes. Rendez-vous donc sur le 102.2, bien évidemment, rtvfm.net ou en DAB+. À très bientôt.